Et vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fidèleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, ici André Bouchard qui vous accueille une fois de plus sur les ondes de votre station numérique fidèleauposte.com pour votre émission Voyage-Voyage. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui. D'abord, en premier lieu, exposition pour l'art canadien avec Jean-Louis Murray. Ensuite, présentation spéciale poétique à la bibliothèque Gabriel Leroy de Québec et Le temps des sucres au Boisé d'Amélie avec la chanteuse de réputation internationale Fabiola Toupin. Et nous compléterons dans les belles îles grecques en compagnie de deux aventuriers voyageurs, soit Joanne Pinchot et Serge Roy. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers auditeurs et auditeurs, sur les ondes de votre station numérique fidèleauposte.com pour votre émission Voyage, voyage. Et pour nous parler d'une belle exposition ou d'un vraiment une activité spéciale au Musée des Beaux-Arts de Québec, j'accueille avec plaisir Jean-Louis Murray, qui est en fait le directeur général, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue. Alors bonjour, Jean-Louis Murray.
Bonjour, M. Bouchard.
Monsieur Murray, quand on parle du Musée des Beaux-Arts de Québec, je sais que vous présentez une exposition un peu spéciale. Alors de quoi s'agit-il?
En fait, les gens, c'est une grande expo sur l'art qui est du Canada. Donc, vous savez, on est un musée d'art québécois. Donc, les gens rigolent un peu avec nous. Comment ça, une grande expo d'art canadien au Musée des Beaux-Arts du Québec? En fait, on a rarement la chance de présenter effectivement les grands maîtres de l'art du Canada anglais. Donc, c'est une chance unique. Et l'autre occasion là, qui n'a pas manqué pour venir voir cette expo-là, ce sont des œuvres qui font partie d'une collection privée. Donc, ils sont dans des maisons la plupart du temps, là, et les collectionneurs sont liés à la famille Sauvé. On connaît plus pour leur épicerie, leur grand réseau d'épiceries au Canada, mais qui sont des grands collectionneurs d'art. Donc, c'est toute une chance d'avoir à Québec de plus de 150 œuvres des grands maîtres canadiens, dont beaucoup de peintres québécois, et de pouvoir un peu avoir, être un peu comme initié, comme si on pouvait entrer dans des maisons privées où on ne peut pas aller habituellement. Donc, un très, très beau projet. On est très contents.
D'ailleurs, vous avez comme thème la famille Sebé et l'art canadien.
Oui, en fait, c'est, comme je mentionnais, les Sebé sont des grands collectionneurs depuis trois générations. Le fondateur de l'entreprise a commencé à collectionner au début des années 1900 et ça continue d'ailleurs. Quand on a ouvert l'expo la semaine dernière, il y avait plusieurs membres de la famille Sauvé qui ont prêté des œuvres parce que les œuvres se retrouvent dans plusieurs endroits. Et c'est toujours un plaisir puis une chance rare là, de voir l'œil d'un collectionneur, la vision d'un collectionneur. Souvent, M. Bouchard, vous savez, quand les gens viennent dans les musées, le plus grand défi pour eux, c'est de comprendre pourquoi on a placé cette œuvre-là à côté de celle-là. Dans ce cas-là, c'est qu'on comprend que c'est le goût des collectionneurs. C'est comme ça qu'ils les ont installés aussi à peu de choses près dans leur maison. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a, même s'il y a 150 œuvres de 30 artistes de partout au Canada, de toutes les époques, de tous les...
C'est difficile de leur mettre tous les artistes qui sont là, là.
Oui, il y en a plusieurs, mais je pourrais vous donner des grands
noms. Oui, s'il vous plaît, oui.
Du chef-d'œuvre, entre autres. Beaucoup de peintres québécois, les Sauvé aimaient l'art québécois. Donc, vous avez Jean-Paul Lemieux, Clarence Gagnon, Cornelius Grégoff. Vous avez aussi, bien sûr, James Wilson Morris et Y. Jackson. Donc, des très, très grands noms. Et même chose au niveau du Canada anglais. Là, peut-être le groupe des Sept, ça vous dit quelque chose. C'est les grands peintres de paysages canadiens ultimes comme McDonald, Harris, mm-hmm. les stars. Vous avez aussi Emily Carr, vous avez Tom Thompson. Donc, c'est vraiment une, on pourrait dire une orgie de chefs-d'œuvre pour les exposants à Québec. Et on doit en profiter parce que, comme on l'a dit, nous, on présente surtout l'art québécois, mm-hmm. l'art international. Et je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas eu une expo.
Ouais, de calibre de ce genre, avec tous ces genres d'artistes que, vraiment, là, qui ont fait leur marque, qui sont vraiment dans les illustres peintres, si on peut dire.
Oui, puis les Sobey, quand je mentionnais là, l'espèce d'esprit dans cette collection-là qu'on retrouve malgré la diversité. C'est fascinant de voir, entre autres, qu'on a placé un Jean-Paul Riopel, mm-hmm. qui est très présent dans l'expo, par l'Émile Bordua, des peintres mm-hmm. à côté de grands peintres paysagistes, là, les peintres de la neige comme Maurice Colonne, les impressionnistes. Et ça fonctionne. Encore là, c'est vraiment le goût des collectionneurs qui aimaient les œuvres qui représentaient le territoire. Mm-hmm. Donc, l'identité canadienne d'un océan à l'autre, qui aimait aussi les œuvres qui étaient très chargées d'émotions.
Alors, c'est tout des...
Les œuvres d'art nous transportent parce qu'on trouve ça beau, mais ils ont une âme, une petite dimension supplémentaire. Donc, on a tout ça dans l'expo. Et c'est les visiteurs, c'est ce qu'ils nous disent. Ils sont surpris par la qualité, mais aussi par le fait que c'est un ensemble cohérent, encore là, parce que ça vient d'un œil particulier de mm-hmm. celui qui a collectionné les œuvres.
Monsieur Murray, avant de terminer, est-ce que les autres expositions, d'autres expositions permanentes également, sont toujours sur place?
Bien sûr, les gens peuvent voir dans le magnifique pavillon La Sonde la collection nationale. Il y a une expo qui s'appelle Nous. Il y a les arts décoratifs. On a l'incroyable collection d'art inuit Brousseau. Et aussi, il ne faudrait pas manquer l'expo Voir la vie qui se termine à la mi-mars. Qui a eu beaucoup de succès puis qui est fascinante. C'est une expo où on présente la vision de la nuit à travers les œuvres de la collection. Donc, elle n'a pas manqué. Ça vaut vraiment une petite visite à Québec pour voir toutes ces belles expos.
Vous aviez une invitation à faire à nos internautes et auditeurs de radio pour les convaincre, justement, à visiter cette belle exposition muséale. Qu'est-ce que vous diriez?
En fait, je vous dirais qu'on est beaucoup au musée dans ce qu'on appelle le ressenti. Souvent, à tort, les gens pensent qu'il faut venir au musée, surtout au musée d'art avec sa tête. Nous, on leur dit, amenez vos émotions. Vous allez ressentir des choses, vous allez être dans le beau. Le beau qui n'est pas nécessairement parce qu'on trouve ça beau, mais le beau qui suscite des émotions. Donc, une expérience profondément humaine dans un monde compliqué, hein, vous en conviendrez, mm-hmm. M. Bouchard. Donc, profitons-en. En plus, le site du musée au cœur des Pines d'Abraham. Les bâtiments sont extraordinaires, donc ça fait du bien. On peut même manger, aller à la boutique, il y a beaucoup de choses mm-hmm. à faire.
Et pour plus d'informations, M. Murray, qu'est-ce qu'on doit faire?
En fait, allez consulter notre site web qu'on trouve facilement en tapant les initiales du musée MNBAC, du Gérard des Beaux-Arts du Québec, ou en téléphonant, une fois qu'on aura les informations, on va vous donner toutes les informations qu'il vous faut. Il y a une belle programmation d'activités culturelles, conférences, visites commentées, activités pour les jeunes, ateliers pour les familles, qui est toujours offerte en complément de nos expos. Donc, on ne s'ennuie pas, Québec, surtout à Hauteville, à notre beau musée.
Et il y a de quoi, justement, avec votre beau musée, en effet. Alors, merci beaucoup, M. Murray, pour tous ces renseignements. M. Murray, qui est directeur général de ce beau musée. Alors, merci beaucoup. À la prochaine et de nombreux visiteurs, ainsi que pendant la semaine de relâche également.
Oui, merci, M. Bouchard.
Au revoir. Thank you. là-dessus, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous écoutez en ce moment votre émission Voyage Voyage sur les ondes de votre station numérique fidèleauposte.com en compagnie de votre animateur André Bouchard. Maintenant de rencontrer un grand artiste, en l'occurrence Ariane Plante, qui est bien connue du côté artistique et qui va présenter des œuvres « Ce qui brille dans le noir » à la bibliothèque Gabriel Leroy, et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Ariane Plante.
Bonjour.
Ariane, quand on parle, j'avais un projet tout assez spécial. C'est quoi ce projet à la bibliothèque Gabriel Leroy?
Oui, alors, c'est une œuvre qui s'intitule, comme vous l'avez dit, « Ce qui brille dans le noir ». C'est une œuvre qui est produite par l'Office national du film du Canada, par l'ONF et par la Ville de Québec, et qui va être implanté dans la nouvelle bibliothèque Gabriel Leroy, donc qui va être disponible et accessible au public à compter du 1er mars prochain.
Alors, parlez-nous-en.
Oui, alors c'est une œuvre interactive, c'est une expérience pour les auditeurs qui se déploie en quatre stations distinctes, et c'est une expérience pour un auditeur à la fois. Donc, on entre dans la station, qui vont être visibles à chacun des étages de la bibliothèque, et au moment où on entre dans la station, ça active l'œuvre. Donc, cette œuvre-là est principalement sonore, et en entrant dans la station, donc ça déclenche tout le mécanisme de l'œuvre qui va, dans le fond, avoir une voix qui va se mettre à nous raconter une histoire. Mm-hmm. Et cette voix-là, c'est le personnage de Humaine, qui est une voix qui va nous guider tout au long de notre expérience et qui va passer à travers différents fragments littéraires. Donc, pour composer l'histoire qui va nous être racontée, j'ai travaillé avec des extraits de textes d'une quarantaine d'auteurs différents, dont beaucoup d'auteurs de Québec, dont Christiane Vadnet, Christine Eddy. J'ai travaillé aussi avec Kim Thuy, Bruno Blanchette, Stanley Péan, qui sont des auteurs très connus dans le milieu littéraire. Donc, à travers cette œuvre-là, ils vont découvrir des extraits de textes écrits par ces auteurs-là. Et donc, c'est une œuvre qui porte sur la commande qu'on m'a donnée, c'est une œuvre qui porte sur le savoir. Et moi, je voulais aborder le savoir d'un point de vue universel. Mm-hmm. Alors, j'ai choisi d'aborder le savoir par le biais de nos sens, donc des sens par la vue, l'ouïe, le toucher, la proprioception, et puis par le goût et l'odorat aussi. Alors, chaque station, les quatre stations, représente un sens ou un groupe de sens, et le contenu dans chacune des stations va porter sur ce sens-là. Donc, dans la station de la vue, par exemple, on va aborder différents sujets comme la nuit, la découverte des plantes sauvages, des champignons. Il va y avoir différents textes qui vont s'apporter à des sujets. Et ces sujets-là se déploient à la manière de la pensée, donc d'une manière un peu arborescente et non linéaire. Mm-hmm. Donc, chaque auditeur va avoir une expérience unique qui ne sera pas la même pour chacun, parce qu'il ne va pas entendre les mêmes segments que l'auditeur qui a précédé ou que l'auditeur qui va suivre. Donc, c'est vraiment une expérience qui peut durer entre 2 et 20 minutes et qu'on fait en se promenant dans la bibliothèque, en entrant dans les stations.
Alors, ça veut dire que c'est... Oui, allez-y.
Mm-hmm. Oui, bien, juste peut-être ajouter, pour reconnaître les stations dans la bibliothèque, elles ressemblent un peu à des petites lanternes, et sur chacune de leurs surfaces, il y a des illustrations d'un BDiste de Québec qui s'appelle Paul Bordelot. Donc, qu'on va pouvoir apprécier d'un point de vue spécifique. Donc, les gens vont vraiment, peuvent pas les manquer, les stations. Chacune a une couleur bien à elle. Et la musique qui accompagne les textes qui sont dans chacune des stations est de Tire le Coyote, donc qui est aussi un artiste de Québec qui est bien connu du public, là.
Alors, c'est beaucoup de recherches, j'imagine, pour avoir trouvé de tels auteurs également.
Ah oui, c'est beaucoup de travail, c'est 2 ans de travail, puis c'est un travail, de sélection, de trouver les textes qui vont aller avec les sujets qu'on aborde, qui vont résonner les uns avec les autres, donc qui vont permettre une fluidité dans les sujets qui sont abordés. Fait que dans le fond, on a accès à plein de segments, de fragments d'histoire, mais la voix guide qui est humaine, qui est portée par la voix de Marie-Josée Bastien, une actrice de Québec, elle se questionne sur ces différents sujets-là. Dans le fond, elle se pose plein de questions sur l'existence. Fait qu'on passe de la naissance de l'humanité jusqu'à la mort, mais elle nous amène à travers différents sujets qui sont abordés par les textes dont je vous parlais. Donc, c'est une œuvre polyphonique avec plusieurs voix différentes. Il y a la voix de Anne Dorval, de Xavier Dolan, de Marie-Josée Bastien, Marie Gignac, qui est aussi bien connue à Québec. Donc, plusieurs voix différentes pour porter une multitude de textes.
Donc, artistique et poétique. Ça vient d'invitation à faire à Ariane. Qu'est-ce que vous diriez?
Mais je dirais de prendre le temps de s'arrêter dans au moins une station, et si possible, même les quatre, pour découvrir, parce que chacune des stations a son propre contenu et ses propres thèmes et ses propres sujets. Donc, d'oser rentrer dans la station, de s'asseoir puis de prendre le temps d'écouter ce que Humaine a à nous raconter.
Alors, très intéressant. Alors, merci beaucoup, collaboratrice, en quelque sorte, de ce beau projet à la bibliothèque Gabrielle Roy, ce qui brigue dans le noir. Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci.
C'est une langue belle, avec des mots super. Elle porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se prit dans une rame et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Et sur cette belle chanson d'Yves Duteil, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous écoutez en ce moment votre émission Voyage Voyage sur les ondes de votre station préférée, fidèleauposte.com, en compagnie de votre animateur André Bouchard. Comme on le sait, en cette période printanière, c'est le temps des sucres, et j'ai le plaisir de m'interroger une artiste, une grande chanteuse internationale, en l'occurrence Fabienne Toupin, qui est propriétaire également d'une belle cabane à sucre en l'occurrence les Boisés d'Amélie, et que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Fabiola Toupin.
Oui, bonjour André. C'est notre rencontre annuelle. Je suis bien contente, la tradition se poursuit.
Oui, en effet, parce que je sais que vous êtes chanteuse également. Pour nos auditeurs, rapidement, là, vous produisez un peu partout encore, j'ai l'impression, selon mes renseignements.
Oui, je chante encore, bien sûr. Je chante un peu moins parce que maintenant aussi, à côté de ça, j'ai une nouvelle carrière de chroniqueuse culturelle à la radio nationale, à la radio
oui,
du Canada,
en effet.
C'est l'émission du matin. Donc, je chante un petit peu moins, mais je pourrais jamais arrêter de chanter. Ça fait partie de ma fibre. Alors maintenant, ma vie se sépare entre la chanson, la radio et bien sûr le temps des sucres.
Et justement, parlez-nous des temps des sucres. Vous êtes propriétaire d'une cabane à sucre depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené justement à être propriétaire d'une cabane à sucre?
Moi, mon père avait une cabane à sucre à Mont-Carmel quand j'étais petite. Donc, la tradition du temps des sucres chez les Toupins, là, ça perdure depuis longtemps. Mon père faisait les sucres avec sa famille. Il y a encore des cabanes à sucre du côté des Toupins.
D'ailleurs, ancien ministre d'Agriculture.
Oui, exactement, d'Agriculture et puis des Terres et Forêts à la fin de son mandat, Normand Toupin. Mm-hmm. Et puis voilà que, ben voilà, donc j'ai rencontré, moi, de Frédéric Tremblay, qui est mon mari aujourd'hui, le père de mes deux garçons. Et puis, quand je l'ai rencontré, il y avait une grande serre, une grande érablière, et puis il entaillait une partie des érables de la terre. Mais quand je l'ai rencontré, il y avait un grand chalet, tout ça. Donc, moi, je lui ai proposé de faire des repas de cabane à sucre. Et puis, voilà que c'est comme ça que l'aventure a commencé pour moi, de commencer à recevoir des gens à la cabane, d'élaborer des recettes, d'essayer de trouver des bonnes recettes de sève au lard et puis de crêpes, tout ça. Il y a différents chefs qui sont passés avec nous dans les cuisines pour nous aider à élaborer des menus au fil des années. Et je crois, André, qu'on est à notre 13e année, mais on s'ostine, mon chum puis moi. Mm-hmm. On a comme perdu le décompte au fil des années.
Ben oui, mais votre menu est assez spécial également, selon mes renseignements.
On aime ça revisiter. Nous, on a voulu aller chercher les bonnes vieilles recettes de nos grands-mères, de notre tradition. Je pense que ce qui nous définit particulièrement, c'est notre fameux jambon, notre épaule pique-nique fumée, saumurée, là, qui cuit toute la nuit à basse température pendant 7 à 8 heures. Donc, c'est des gros morceaux de jambon qui fondent dans la bouche, là, qu'on met sur la table. C'est pas, on n'est pas dans la tranche de jambon tout pis, là, comme on est habitué dans les cabanes. On a vraiment voulu renouer avec la tradition. On s'amuse aussi avec les oreilles de Chris. On leur donne des saveurs, buffalo, érable et ail. Les belles omelettes cuites au four, dans la belle poêle de fonte, fèves au lard, la soupe aux pois qui est très appréciée. On a une petite touche spéciale. J'ai un secret dans ma soupe aux pois.
Ah oui?
Bien sûr, que je ne vais pas vous révéler.
Oh non, regardez ça. Discrètement.
Et puis pour le dessert, on a aussi une particularité ici. Ben, on a acheté une sorbetière depuis quelques années, puis on s'amuse à faire une très bonne crème glacée à l'érable qui accompagne les crêpes. Bien sûr, les crêpes frisées, hein, qui est une tradition de la
mode. Oui, c'est spécial un peu, ça, les crêpes frisées, hein?
Oui, ma mère me faisait ça, moi, avec ma tante, quand j'étais petite.
Moi, c'est ma belle-mère qui m'en faisait.
Oui, ah ben voyez-vous, hein, c'est ça, c'est des souvenirs de famille, particulièrement pour la Mauricie. Mm-hmm. Donc, nous, on a décidé d'amener ça ici à la cabane. C'est presque des beignets, en fait. Hein. C'est une pâte à crêpes et frites, mm-hmm, avec le sirop d'érable. Et puis, on a aussi la pudding au pain avec des canneberges, avec des raisins secs à l'intérieur, avec une belle crème à l'érable.
Très délicieux, sans doute.
Et puis, on finit ça avec la tire sur la neige, André. Donc, ceux qui repartent et qui ont encore faim, eh bien, franchement, c'est à n'y rien comprendre.
Non, en effet, je comprends qu'ils ont plus faim. Mais je sais une chose aussi, que c'est pas une cabane morte. Je sais qu'il y a beaucoup d'animation. Comment ça se déroule? Parce que vous êtes une chanteuse également, là.
Oui. Nous, on fait déjà un seul service par jour. Ça aussi, ça nous... Ça nous différencie des autres cabanes. Donc, on ne fait qu'un seul service par jour et que la fin de semaine, à l'exception du vendredi fin, le 29 mars cette année, pour le long week-end de Pâques. Ou sinon, c'est un service par jour. Donc, les gens arrivent dès 11 heures. En extérieur, il y a le feu qui les accueille. On fait des grillades sur charbon de bois laqué au sirop d'érable avec un mélange d'épices particulier. C'est inspiré des fameuses grillades de Valleyfield. Nous, on les a adaptées cabane à sucre. On déguste du beurre d'érable en extérieur. Il y a une consommation qui est offerte avec le repas. Et au niveau des consommations aussi, on se démarque. On fait des cocktails qui sont propres à notre cabane à sucre, comme notre fameux vodka cabane, comme notre eau d'érable pétillante maison. Et après, à midi, ben, je sonne la cloche, comme au chantier. Puis tout le monde rentre, on monte les tablés. Et là, ben, y a le plateau dégustation avec les toasts sur le poêle, les gelées à l'érable, les crotons maison, gras de canard. Et moi, j'anime avec mon acolyte Dominique Bachand, qui est le Grillardin, mais qui est aussi un excellent chansonnier. Et puis, à deux, on anime la cabane avec beaucoup de plaisir, puis on met la fête. On met la fête dans la cabane, puis les gens apprécient beaucoup, je pense, cette portion-là. Donc, tout le monde vit la même chose en même temps. Tout le monde arrive en même temps. Tout le monde vit les mêmes choses. C'est un peu comme un spectacle, André, finalement. Moi, je me suis inspirée.
Ben oui, avec une animatrice comme la vôtre, là, comme vous, là, ça aide énormément, certainement. D'ailleurs, c'est spécial parce que vous avez réussi, justement, à faire un petit joyau dans ce secteur de la Mauricie.
Ah, ben c'est gentil, c'est gentil. Il met beaucoup de cœur, en tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. À chaque année, c'est toujours beaucoup d'ouvrage, hein, d'ouvrir et de fermer un restaurant chaque année. Il faut avoir du cœur au ventre. Et quand on fait du sirop d'érable, de toute façon, il faut être passionné. Parce que pour ceux qui en ont fait ou qui en font du sirop d'érable, que ce soit à la Chaudière, à la Tiboulure, que ce soit 200 en taille ou 6000 ou plus, il faut avoir du cœur au ventre. Il faut aller au rythme de la saison. Il faut aller au rythme du printemps. Puis cette année, le printemps, il a l'air de vouloir se pointer le bout du nez assez de bonheur. Fait qu'il faut être prêt.
Avez-vous des boîtes également?
On fait les boîtes repas emportées. Si les gens vont sur la boutique en ligne de notre site lesboisiedamélie.com, ils peuvent dès maintenant passer une commande et on va les livrer chez eux s'ils sont dans notre secteur de livraison. Bien sûr, mais on couvre quand même assez large. On se rend jusqu'à Louisville, Shawinigan, dans les alentours de Saint-Paulin, bien sûr, Trois-Rivières assurément, parce que nous, on demeure quand même à Trois-Rivières, même si la cabane à sucre est située à Saint-Paulin. Alors, dès maintenant, les gens peuvent passer leur commande. On a des boîtes de 2, de 4, de 8. Puis si on combine tout ça, ben on est capable de convenir à la famille. Et ce sont des boîtes très copieuses, André. Les gens nous rappellent pour nous dire « Mon Dieu, il nous en est resté pour le brunch le lendemain.
» Alors, c'est intéressant. Alors, une petite invitation rapide.
Ben oui, j'invite tout le monde à réserver dès maintenant. Et je peux dire déjà que le 25, qui est dimanche à venir, qui est notre première cabane d'ouverture, tous ceux qui nous montent un groupe de 5 personnes et plus, bien moi, je leur offre une belle boîte cadeau pour les remercier d'avoir rassemblé des gens, puis surtout d'avoir participé à cette première cabane qui est le 25 février. C'est tôt, mais cette année, le printemps est là, tellement de bonheur. On nous annonce du beau temps pour la fin de semaine, donc venez nous voir ou sinon, ben, réservez vos places pour le reste de la saison. Tout est disponible sur notre site Internet. Là, il y a un onglet où ils peuvent réserver les dates ou sinon, mon numéro de téléphone est là, vous m'appelez, puis j'adore faire du service à la clientèle puis parler avec les gens. Essayer de les rendre le plus heureux possible puis faire en sorte que les familles puissent continuer à venir se faire des beaux souvenirs au Boisé-d'Amélie.
À constater votre enthousiasme, je n'en doute pas. Alors, bonne journée et bonne semaine et bon temps des sucres, Fabiola Toupin. À la prochaine, j'allais dire chanteuse internationale également.
Merci.
Sucrière.
C'est
We'll be right back.
Et après Cyril, qui nous rappelle le temps des sucres, comme nous l'avons présenté avec notre invitée précédente, je vous rappelle, chers auditeurs et auditeurs, que vous écoutez en ce moment votre émission Voyage Voyage sur les ondes de votre station préférée, fidèleauposte.com, en compagnie de votre animateur André Bouchard. Et maintenant, bien, nous allons visiter les îles grecques en compagnie de deux aventuriers voyageurs. Couvertes plus précisément les îles grecques, en compagnie de deux aventuriers voyageurs, Joanne Pinchot et Serge Roy, qui vont nous parler justement de leur séjour et également sont des conférenciers et cinéastes bien connus de plus en plus et que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Joanne Pinchot et Serge Roy. Madame et messieurs, je sais que vous aimez beaucoup les îles grecques et les voyages. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine du voyage?
Ah, ben, c'est qu'on a toujours aimé voyager, mais moi, pour mon travail, j'étais ingénieur de support. Ben, j'étais encore ingénieur de support dans une compagnie.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, j'ai eu à voyager un peu partout à travers le monde. Fait que ça m'a fait découvrir plein de pays, plein de cultures différentes, plein de nourritures différentes. Fait que je visitais les pays, puis après ça, j'en discutais avec Joanne, mon épouse, puis elle me disait « Ah, ben, j'aimerais ça y retourner ». Fait que souvent, on allait revisiter des pays où ce que j'avais été travailler. Puis, c'est ça, voyager comme, par exemple, je suis allé souvent en Inde, au Japon, mm-hmm. en Malaisie, en Égypte aussi, mais...
On aura l'occasion de revenir.
On n'a pas eu la chance de le visiter encore.
On aura sûrement l'occasion de revenir sur ces pays-là. Avec Mme Joanne, vous, qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine du voyage, justement?
Bien, moi, j'ai toujours eu le goût de voyager. Puis quand Serge revenait de voyage, bien, c'est sûr, je voulais toujours, il revenait toujours avec un paquet de photos. Alors, je voulais aller découvrir ça. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. C'est toujours moi qui ai préparé les vacances, qui préparais les, mm-hmm. les voyages, puis les voyages en famille aussi, parce qu'on a deux grandes filles. Fait qu'on partait chaque année, une à deux fois par année, pour faire des petits voyages, des fois plus longs. Puis on aimait ça découvrir, on a toujours aimé ça découvrir des choses différentes, puis beaucoup de choses. Puis on a souvent eu une devise qui était « On va jamais deux fois à la même place ».
Ah, des habitués du voyage en quelque sorte. Et si maintenant je vous demandais, qu'est-ce qui vous a amené aux îles grecques?
Ben, en fait, les îles grecques, on en entendait parler, excusez-moi. Alors, à force d'en entendre parler par tout le monde qui y allait puis qui était, qui revenait estomaqué de cette destination, on s'est dit, ben, il doit bien avoir quelque chose d'intéressant là.
Mm-hmm.
Fait qu'il va falloir, nous aussi, aller voir ça un jour. Puis, l'occasion s'est présentée en octobre 22 d'aller faire un séjour là de 3 semaines aux îles Grecques.
Et c'est la même situation pour Serge?
Oui, ben c'est ça, les îles grecques. J'ai été vraiment surpris en préparant le voyage qu'il y avait tant de choses différentes. Tu sais, je croyais que d'une île à l'autre, c'était la même chose, mais c'est assez différent. Puis
mm-hmm.
C'est mon goût aussi de l'aventure puis de la découverte qui m'a amené là.
Et si là, on parle des îles proprement dites, parce que c'est ça qui est votre principale conférence depuis quelque temps, là. Alors, concernant les îles, comment y a-t-il d'îles grecques quand on parle des îles grecques?
Ah, ben c'est ça, il y a plus que 200 îles habitées, puis ça, c'est, on ne compte pas celles qui ne sont pas habitées, fait que ça fait un vaste étendue d'îles qui a un peu tout le tour de la Grèce, fait que il y en a vraiment beaucoup.
Puis, évidemment, vous n'avez pas visité toutes ces îles-là, et vous n'avez visité combien lors de votre séjour et en même temps que cinéaste?
Ben, c'est sûr qu'on a visité 4 îles principales, mais ces îles-là ont des îles aussi qu'on a visitées. Fait qu'on mm-hmm. a visité Mykonos, puis l'île de Délos qui est juste à côté, qui est un site archéologique. Ensuite de ça, on a visité Paros. On a visité Antiparos, qui est juste une petite île à côté aussi. Ensuite, on a visité Naxos. Ensuite, Santorin. Puis, par la suite, on a visité l'île de Crète, qui est une des grandes îles... en Grèce.
Avant d'aller plus loin, parce que certaines personnes, ou du moins plus ou moins connaisseurs, ne font pas la distinction entre les îles grecques et la Grèce proprement dit. Avant de partir sur l'autre côté, là, Quelle différence faites-vous entre les deux, si jamais il y en avait?
Oui, oui. Il y a une bonne différence. Bien, c'est que finalement, la Grèce, c'est une série qui est rattachée au continent européen. Puis, tout le tour de la Grèce, finalement, il y a un paquet d'îles qui sont là. Ça fait que les îles grecques font partie de la Grèce comme telle, mais c'est qu'ils ont chacun leur
personnalité. Alors, c'est ça. Donc, ça fait partie de la Grèce, mais ils ont chacune leur particularité. Alors, là-dessus, on va s'arrêter quelques instants pour une belle musique grecque, puis on va continuer ensuite pour la deuxième partie.
Parfait.
Vous êtes toujours à l'écoute de votre station fidèleauposte.com dans le cadre de votre émission Voyage Voyage en compagnie de votre animateur André Bouchard. Et nous poursuivons aux îles grecques. Et nous poursuivons ce beau voyage sur les îles, dans les îles grecques en compagnie de deux aventuriers voyageurs, Joanne Pinchot et Serge Roy. Alors, Madame Pinchot, quelles sont les îles grecques que vous avez visiter?
En fait, on a fait en premier lieu l'île de Mykonos. Sur l'île de Mykonos, on est allé voir l'île de Délos. Après ça, on a fait Paros et Antiparos. On a fait Naxos et Santorini. Puis, on a terminé par la Crète.
Alors, c'est intéressant. Alors, il y a du côté de Serge. Alors, la première île que vous avez faite, est-ce que vous pouvez nous en parler, Serge?
Oui, c'est ça, c'est que là, c'était un départ de Pirée, qui est juste à côté d'Athènes, qui était à 7 heures du matin. Puis le trajet durait, si je me souviens bien, quelque chose comme 2 heures et demie, pas loin. Puis c'est ça, on a fait un arrêt sur une île en passant. Puis là, on est arrivé sur Mykonos. Mykonos, c'est...
Bon, parlez-nous de Mykonos, parce que c'est un nom connu du côté grec. Oui, allez-y.
Oui, c'est une île qui est très populaire. C'est une des îles populaires en Grèce, parce que c'est une île de Partée, disons que... surtout l'été, au mois de juillet et août, il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur les îles, puis sur Mykonos, puis entre autres. Donc, puis il y a beaucoup de jeunes, puis il y a des bars, des restaurants, toutes sortes de choses. Ça fait que c'est une île de party, puis c'est une île qu'on voit souvent des photos aussi avec les gens, les moulins à vent aussi. Ça fait que c'est une île très pittoresque.
Il y a aussi sur l'île de Mykonos de très, très belles plages. Il y a beaucoup de gens qui vont pour la plage, parce que dans le sud de l'île, elle a beaucoup, beaucoup de plages, vraiment de très, très belles plages, de grandes plages avec du très beau sable.
Quand vous dites le sable blanc ou noir?
C'est plus du sable doré, je vous dirais.
Entre les deux, en quelque sorte.
Oui.
Alors, c'est intéressant.
Pas blanc, comme on voit des fois, mais un peu sable doré.
Et quand vous voyagez dans cette île, par exemple, de quelle manière circulez-vous?
Ah, ben là, on a plusieurs choix. Il y a des transports en commun qui existent, des autobus. Ça coûte aux alentours de 2 euros pour les gens qui utilisent les transports en commun. Souvent, les transports en commun partent du point central de où se situe le port. C'est souvent là, le hub, le point d'attache des autobus. Nous autres, notre hôtel à Mykonos était un petit peu à l'extérieur. On pouvait s'y rendre facilement en autobus, à peu près à peut-être 300-400 mètres de l'hôtel, il y avait l'autobus. Mais on a choisi aussi de louer un auto. On peut louer des autos. Il y a des gens qui des plus aventureux que nous qui louent des quads ou des mopeds, là, des genres de mobilettes. Mais nous, on a loué un auto pour aller visiter... une petite ville à l'extérieur, puis d'autres plages autour de l'île.
Et alors, c'est intéressant. Et la deuxième île, maintenant, c'est quelle que vous avez fait?
La deuxième île, c'est l'île de Paros.
Alors, parlez-nous de cette île de Paros.
L'île de Paros, c'est une île qui a été développée, qui est en train de se développer beaucoup avec les investisseurs français. C'est une île qui a beaucoup... qui a des très beaux villages. Alors... beaucoup plus élaboré, j'ai trouvé, que Mykonos à ce niveau-là. Et très authentique aussi. Il y a le petit village de Naoussa qui est très, très authentique. Beaucoup de pêcheurs, on les voyait s'affairer sur le bateau. C'était vraiment intéressant. Il y a des belles plages aussi, des plages un petit peu particulières qui font partie des plus belles plages de Grèce. Et c'est une île qui a un petit peu d'histoire aussi avec son village de Parikia.
Oui, Paros. Serge, as-tu un commentaire de ce côté-là?
Oui. Puis c'est ça, on n'en parle pas dans le film, mais Paros est très célèbre pour son marbre, entre autres. Parce que le marbre de Paros, c'est un des marbres célèbres en Grèce. Entre autres, la Vénus de Milo a été faite avec du marbre de Paros.
Ah, ben c'est intéressant. Est-ce que, je vais demander une question au départ, si l'on peut dire, est-ce que les Grecs sont accueillants?
Ils sont très accueillants, puis c'est ce qui m'a vraiment surpris en Grèce, entre autres, là, parce que quand on est allé à l'automne, ils avaient connu une saison touristique vraiment exceptionnelle. Je pense que c'était leur plus grosse saison touristique. Mm-hmm. On dirait que tout le monde a commencé à voyager, puis ils sont tous allés en Grèce, je ne sais pas trop. Mais ce qui m'a surpris, c'est que malgré tous ces touristes-là, ben les gens, les Grecs, étaient vraiment très accueillants. Puis, entre autres, à Paros, c'est à Naxos, mais on va y revenir tout à l'heure.
Oui.
Mais les gens, c'est ça, on a rencontré un chef italien qui était là, puis qui nous a accueillis. Il nous a même organisé une entrevue avec le maire de Paros.
Alors, c'est intéressant.
Ils sont très accueillants puis très affables.
On n'a pas douté. Alors, on s'arrête quelques instants et nous reprenons après cette pause, si vous me permettez.
Parfait.
Thank you. ta 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 ta.
Et après cette belle chanson grecque bien connue de l'époque, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous êtes à l'écoute de votre émission Voyage Voyage sur les ondes de votre station préférée, fidèleauposte.com, en compagnie de votre animateur André Bouchard. Et nous poursuivons notre séjour aux îles grecques en compagnie de ces deux aventuriers voyageurs, Joanne Pinchot et Serge Roy. Alors, Joanne, quelles sont les deux autres îles que vous avez faites également?
Alors, on a fait l'île de Naxos et l'île de Santorin.
Alors, parlons de Naxos d'abord. Quel est ce qui retenait de cette île?
Naxos, c'est une île un petit peu plus naturelle. Donc, beaucoup, les gens qui aiment beaucoup la randonnée vont apprécier beaucoup cette île-là. C'est la plus grande et la plus grosse, la plus haute des îles des Cyclades.
Oh, oh!
On a traversé l'île à partir par le centre. Et c'est une île qui est très, très, très montagneuse. Fait qu'on a fait des belles découvertes. À notre grande surprise, il neige aussi sur l'île de Naxos.
Est-ce que du ski qui se fait là?
Non, pas au point de faire du ski parce que je crois pas qu'il y a des montagnes aménagées pour ça.
Okay.
Parce qu'il faut savoir que les îles des Cyclades, l'hiver, la majorité se vide. Donc, beaucoup de gens qui sont affectés au tourisme vont retourner chez eux à Athènes ou dans le pays et reviennent seulement qu'en saison. Fait que l'île de Mykonos qu'on vient de parler se vide pratiquement complètement. L'île de Santorin qu'on va parler après se vide pratiquement aussi. Et Paros et Naxos, il reste un petit peu plus d'habitants l'hiver, mais beaucoup de monde quitte quand même l'hiver.
Serge, qu'est-ce que vous retenez de cette île Naxos?
Ah, Naxos, on a loué une auto aussi à cet endroit, donc ça a été une aventure de conduire à cause des routes.
C'est pas évident, hein?
Qui serpentent, puis des fois qui rencontrent juste une voiture de large, des fois on rencontre des camions, tout ça. Mais c'est une très belle île et j'ai adoré Naxos. Mm-hmm. On a découvert qu'il y avait une liqueur spécifique à Naxos, qui est le Kitra. Le quitron, qui est fait à partir de feuilles de ça ressemble c'est pas un citronnier, mais c'est dans la même famille que les citrons, c'est un agrume, puis ils utilisent les feuilles pour, ils font de la distillation, puis ils font de liqueur, puis ils nous ont fait goûter, on avait des dégustations, c'est vraiment très bon. Ensuite de ça, on est allé se promener, on se promenait dans une petite ville, puis il y a des gens qui nous ont vus passer, puis on a regardé leur maison. Ils nous ont invités à visiter leur maison. C'était vraiment exceptionnel. Mm-hmm. Un accueil qu'on trouve nulle part ailleurs, en tout cas, que j'ai pas trouvé nulle part ailleurs.
Et la dernière île que vous avez visitée, on en parle, c'est Santorin, c'est ça?
Oui, Santorin ou Santorini.
Santorini. Alors, parlez-nous de ça d'abord, Joanne. Qu'est-ce que vous en retenez?
C'est une île, pas une ville, mais une île qui est pas très, très grande, mais qui a beaucoup, beaucoup à offrir. Mm-hmm. Alors, on est allé à date à peu près 6 jours, parce qu'on a refait un autre séjour en Grèce. Puis on dirait qu'on n'est pas arrivé à tout voir. Alors, il y a des vignobles qui sont sur place.
Ils sont très populaires du côté vinicole, en effet, oui.
Mm-hmm. Oui, puis il y a des villages, parce que souvent, on va connaître Phira, où ce que les bateaux de croisière vont accoster. Mm-hmm. Et on connaît Oya, c'est sûr, les fameuses photos des toits bleus qu'on voit partout. Mais Santorin a beaucoup plus à offrir que ça aussi, parce qu'elle a d'autres beaux villages. Les gens vont se rendre aussi dans le village de Camari souvent, ou sur la côte de la plage de Périssa pour
faire des séjours de plage, puis le soir, bien, profiter d'autres activités. Alors, c'est une île qui a beaucoup à offrir au niveau visuel. Il y a la plage rouge aussi, parce qu'il faut savoir que la Santorin est... il y a eu une éruption volcanique il y a 3600 ans environ. Et il y a des plages de sable noir, mais il y a aussi des plages de sable rouge. Alors, c'est beau à voir.
Et Serge, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette île?
Ah, ben, on a fait la randonnée qui allait de Fira à Oya. C'est une petite randonnée de 10 kilomètres. Puis là, on a tout le temps des beaux paysages. On se promène le long de la caldeira. La caldeira, ça se trouve à être comme une espèce de... pas montagne, mais...
falaise.
De falaise, c'est ça, qui a été créé par l'éruption volcanique. Fait que là, tu longes la caldeira pour passer d'une place à l'autre. C'est vraiment exceptionnel. Puis c'est ça. Il y a aussi... ce qui m'a marqué aussi, c'est que les vignes sont très petites à cause du vent et du manque d'eau. Par contre, ça fait des raisins, qui fait un vin particulier. Puis une des caractéristiques de ces vignes-là, c'est qu'il y a une maladie en Europe là, qui attaque les vignes. Puis ces vignes-là sont immunisées contre ces maladies-là.
Ah ben c'est intéressant. Alors, somme toute, Joanne, j'ai cinéaste également, ainsi que Serge. Alors, qu'est-ce que vous... En conclusion, là, comment avez-vous trouvé votre expérience et si on va avoir plus de... Quelle invitation et pour plus de renseignements?
Alors oui, on a adoré l'expérience et on conseille la Grèce à tout le monde, on en parle à tout le monde. Et quelqu'un qui aimerait voir le film, il reste quelques endroits ce week-end qui va être présenté dans les cinémas. Et à partir du 1er mai, il va être disponible sur soit le site des Aventuriers Voyageurs sur les films en location ou plus directement sur film avec un S de voyage.com. Et là, c'est tous les films des aventuriers qui sont mis en location. Et nous, il va sortir le 1er mai pour la location.
Oui, Serge, un commentaire pour compléter?
Au sujet de la Grèce, ça a été une découverte. Il y a la nourriture qu'on a trouvée vraiment exceptionnelle. Puis on a tellement aimé ça qu'on est retourné en Grèce pour faire un second film, vraiment plus... sur le continent cette fois-ci. Là. Donc, on va aller jusque dans les météores. Aux météores, c'est qu'il y a des monastères qui sont bâtis sur des montagnes. C'est magnifique. Puis, on va aller visiter Corfou, puis la Péloponnèse.
Film sur la Grèce.
Oui, tout ça fait partie de la Grèce. On aurait pu faire 10 films sur la Grèce si on avait voulu.
Alors, des passionnés du voyage et de la Grèce, entre autres. Deux aventuriers voyageurs, cinéastes et conférenciers. Alors, merci beaucoup de cette entrevue. Et là-dessus, voilà qui termine à peu près cette émission Voyage-Voyage sur les ondes de votre station préférée fidèle au poste. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, vous avez des commentaires ou suggestions. Il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant. André Bouchard 84 @commercial.gmail.com. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite une bonne semaine, remplie de belles découvertes ici et là, et qui vous dit à la prochaine.